Merci de m'avoir invité. Je partage parfaitement tous les points de vue qui viennent d'être exprimés sur les sages-femmes. Et quand j'ai été nommé président du collège, ma première action était d'inviter la présidente de l'Ordre des sages-femmes à déjeuner et d'aller la voir. Je suis allé la voir et je l'ai invitée à déjeuner. Et je lui ai dit, nous avons à travailler ensemble et ne pas nous jeter des cailloux comme d'habitude, parce que nous sommes ensemble pour aider les femmes et on va parler évidemment des pays en développement et je peux dire qu'à chaque fois on a essayé de développer, d'aider les écoles de sages-femmes. Donc j'adhère parfaitement à ce qui a été dit en disant que le rôle et en particulier la formation des sages-femmes comme nous l'avons ici, je veux dire en Europe, qui est un personnel médical qui a une activité médicale complète de consultation, d'actes, de suivi, de prescription, etc. Ce qui n'est pas du tout l'idée américaine où il y a une infirmière en salle de travail, mais elle prend l'attention, elle surveille les gouttes d'ocytocine, mais elle ne fait pas le travail que vous faites. Bien alors, mon sujet, c'est évidemment, est-ce que le collège, puisque je vais parler essentiellement du collège, peut avoir, et les sociétés savantes peuvent avoir un rôle dans la baisse de la mortalité maternelle. Je pense qu'effectivement, et ça a été dit là tout au long de ces journées, que le personnel, il doit être formé. Et donc, c'est en ça que les sociétés savantes peuvent avoir un rôle et travailler. Donc, normalement, c'est Bernard Hédon qui est le président du collège qui devait en parler. Il n'a pas pu venir et vous prie de l'excuser. Et donc, je le fais puisque j'étais président du collège pendant de longues années. Que maintenant, quoi il a été dit, je suis président d'un fonds pour la santé des femmes qui essaye de récolter des sous pour aider dans des actions à travers le monde, essentiellement de formation, mais d'aide aussi en France, puisque, comme il a été dit, on a aidé pour les consultations à Calais, dans la jungle de Calais. On a un programme aussi pour les femmes handicapées qu'on essaye de développer. Bien, ceci étant dit, le collège a eu un certain nombre de programmes qui ont tourné en particulier en Asie. Et donc, je vais m'appuyer sur ces exemples-là parce que je crois que c'est le plus intéressant. Donc, c'était des programmes d'abord qui étaient d'État à État. Au Vietnam, c'était un programme qui a été signé en accord avec le gouvernement du Vietnam et l'État français. Vous savez que après la chute de Saïgon, les Américains et la fin des conflits, personne n'a bien voulu aider le Vietnam et les Français ont signé un accord et nous avons eu et nous avons porté la bonne parole en gynécologie obstétrique, mais dans d'autres disciplines aussi, en chirurgie, en anesthésie, en pédiatrie, etc. Donc c'était un vaste programme qui était piloté par le ministère des Affaires étrangères pour nous et donc le collège a fonctionné comme un élément fournisseur de ressources pour la formation des gynécologues obstétriciens au Vietnam. Et nous avions des missions où nous partions à deux, à Hanoï, à Ho Chi Minh ou à Hue, pour aider à la formation des gynécologues obstétriciens. Et ensuite, de quoi l'ambassade de France et les enseignants, nous sélectionnons les meilleurs élèves, qui étaient les meilleurs en français et les meilleurs en obstétrique, en gynéco-obstétrique, pour qu'ils viennent en France sur un poste d'interne pendant une année pour lequel ils étaient rétribués. Et donc nous avons formé comme ça un peu plus de 100 médecins au Vietnam. Et je peux vous dire que, par exemple, aujourd'hui, le doyen de la faculté de médecine de Hanoï s'appelle Nguyen Duc In. Il a passé 2 ans à Tours chez nous et il est le doyen de la faculté. À Hanoï, à Ho Chi Minh, c'est la même chose. Le doyen qui est là, un neurochirurgien, a passé un an ou deux en France pour sa formation. Et programme a permis, je crois, de former des formateurs et actuellement, la gynécologie obstétrique au Vietnam marche assez bien. Alors, ce n'est pas évidemment le seul élément. Il y a la formation des sages-femmes, l'équipement des hôpitaux, etc. Mais la formation des médecins, et maintenant, ils se débrouillent très bien pour la formation gynéco-obstétrique. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils nous demandent simplement de faire de la formation continue, ce que nous continuons à faire par un congrès de franco-vietnamien qui a lieu tous les deux ans et qui est très suivi puisqu'il y a en gros 2000 participants à chaque fois. On le fait, on le double, on le fait à Hanoï et à Ho Chi Minh. Et on envoie les diapos, ils les traduisent en vietnamien pour qu'il y ait des possibilités. Et cet enseignement continu se poursuit et on nous a demandé de faire aussi un enseignement maintenant disons de deuxième niveau, de surspécialité, comme on voudra, qui concerne la cancérologie gynécologique, l'infertilité, la procréation et le diagnostic prénatal, pour lequel ils veulent maintenant avoir une formation et pour lequel il y a un programme de formation orienté pour des gynécologues obstétriciens qui souhaitent se perfectionner en oncologie et en... c'est Philippe Descamps qui le pilote, en reproduction et en DPN, avec des collègues de ces orientations ici qui fonctionnent. Donc, je peux le dire parce qu'ils nous le disent eux-mêmes. Ils disent, nous, si aujourd'hui on a fait des progrès, on n'est pas trop mauvais, ben, on le doit quelque part aux Français qui nous ont aidés après la guerre, alors qu'on avait été battus, comme vous vous en souvenez, Tien Bien Phu, mais qu'on a gardé des liens avec eux, et des liens fort sympathiques qui se sont développés. Parce que je crois que les liens humains aussi, c'est important, et de rester avec de bonnes relations. Alors au Cambodge, on a eu aussi un programme, puisque vous le savez, dans les années 95, après le drame des Khmer Rouges et l'occupation du Cambodge par les Vietnamiens, qui sont restés quand même 10 ans. Les forces de l'ONU se sont interposées. Les Khmer Rouges sont partis dans le nord, dans la forêt. Et les Vietnamiens sont rentrés chez eux. Nous, on a rouvert l'école de médecine de Phnom Penh, qui avait été fermée de 75 à 95, et pendant laquelle, pendant 20 ans, dans ce pays qui comportait à l'époque 8 millions d'habitants, on a formé zéro personnel médical. Zéro. Et donc, à ce moment-là, j'ai un collègue anatomiste qui était de Tours parce qu'il avait une femme asiatique qui est parti là-bas pour rouvrir l'école de médecine et on a ouvert également à côté l'hôpital Calmette pour lequel nous avons eu une convention à Tours pour former le personnel dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on a formé depuis le plombier zingueur, l'électricien, l'évacuation des eaux, le personnel infirmier et le directeur, tout le monde. Donc il y a eu, ben oui, parce que si on veut qu'un hôpital il fonctionne, il faut qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait de l'eau au robinet, qu'il y ait un laboratoire qui fonctionne à peu près, etc. Et donc il y a eu un programme qui a été très organisé aussi par le ministère des Affaires étrangères. Et en l'espèce, moi j'ai été en charge personnellement du programme de la formation des gynécologues obstétriciens au Cambodge. Donc on a fait cela avec les... Il y avait un programme pour les chirurgiens, pour les anesthésistes, pour les pédiatres, etc., de la même manière. Et les collègues, nous avons sélectionné, avec l'appui de l'ambassade de France qui les a formés en français, nous avons sélectionné également, de la même manière, les meilleurs, si je puis dire, en gynéco-obstétrique et en français, qui sont venus ensuite faire un séjour en France et qui sont revenus dans leur pays. Et là encore, il y a eu, ça a fait test d'huile, ils ont formé des gens et l'hôpital Calmette marche bien maintenant, tant et si bien que même on y fait de la chirurgie cardiaque de base, mais quand même, ça montre qu'il y a de l'électricité, de l'eau, que les blocs sont propres et qu'il y a des laboratoires convenables, ce qui est bien. Et il y a aussi une distribution des gynécologues obstétriciens à Sinraiap, à Battambang, à d'autres villes cambodgiennes. Et il n'y a pas que au sud, à Sihanoukville, etc., où il n'y a pas que à Phnom Penh qui sont tous restés. Et on a maintenant également simplement un programme de formation continue. Et pour ce qui est des surspécialités, ils se joignent au programme vietnamien pour des raisons de nombre. Alors au Laos, on a eu on n'a pas formé de gynécologue obstétricien très directement au Laos parce que ils étaient peu nombreux, le pays est plus petit, et on leur avait demandé de se joindre au programme au Cambodge ou au Vietnam. Ça n'a pas toujours très bien marché, c'est dommage. Et on a, parce qu'il y a là encore, il y avait des grosses difficultés, en particulier de la pratique des sages-femmes, qui par exemple faisaient une épisiotomie à tout le monde, ont donné des antibiotiques pour tous les accouchements, etc. La formation des sages-femmes était mauvaise, enfin, à mon avis, mauvaise. C'était une formation d'infirmiers et elle faisait 3 mois d'obstétrique. Donc, ce n'est pas en 3 mois qu'on apprend l'obstétrique. Donc, on avait, à ce moment-là, persuadé le ministre de l'époque, M. Laloy, qui a fait sa formation en France et qui était un médecin qui formait à Montpellier, qu'il fallait former des sages-femmes comme nous on fait. Donc, on avait fait un programme adapté. Madame Rivière, d'ailleurs, connaît bien, puisque beaucoup de sages-femmes ont participé, étant entendu qu'il y avait à cette époque-là une convention entre l'Université de Vietnam et de Vientiane et Pierre et Marie Curie, et donc on avait fait un accord avec l'école de Saint-Antoine pour que des sages-femmes puissent participer et montrer la pratique. Alors là, on avait un problème plus délicat, c'était le problème de la langue. Et donc, on s'était aussi associé à des Lao, qui étaient, eux, des réfugiés politiques qui étaient venus chez nous en 75 et qui avaient fait leur carrière ici, et des sages-femmes aussi, d'ailleurs, qui parlaient le français et le Lao. Bon. Cette école de sages-femmes, il y a eu une promotion. Maintenant, il y en a une deuxième qui est en route. Les relations se sont un peu compliquées, mais enfin, d'après les informations que j'ai, ça continue. Alors, on a eu d'autres programmes. Donc, vous voyez que le collège a été assez actif dans le temps. Il y a eu aussi, c'est un peu lié à la décolonisation, nos affaires, comme vous voyez. Il y a eu l'Algérie. Jacques Miliez a été enseignant à Naba pendant de longues années. Et moi-même, j'ai été chargé, moi, j'étais jeune agrégé à l'époque, de l'enseignement à Constantine de la gynécologie dans les années 80-90. Et j'ai formé les gens qui m'ont d'ailleurs invité encore l'année dernière. J'ai gardé des liens très attentifs. Le Gabon, qui est un petit pays d'1,5 million d'habitants, n'avait pas d'enseignement de gynécologie obstétrique. Et nous avions un doyen à Tours, André Goisé, qui avait fait la conférence des doyens francophones et pour lequel beaucoup de gens, et en particulier de Tours, ont participé à l'enseignement au Gabon. Puis dans d'autres pays, nous sommes intervenus. Et là, depuis maintenant 3 ans, avec le collège, nous travaillons au Tchad parce que la mortalité maternelle y est extrêmement élevée, comme il a été dit, extrêmement élevée. Le Tchad a subi une tragédie que connaît bien Luc de Bernis, puisque le peu de gynécologues accoucheurs qui existaient dans ce pays, qui se comptaient sur les doigts d'une main, ils ont été 8 ou 9 à se tuer dans l'accident d'avion, de l'avion qui a été descendu par Kadhafi, vous vous souvenez, dans le désert. Ces gens-là venaient à un congrès pour voir de la cœliochirurgie, si je me souviens bien, et ils sont tous morts. Et ça a décimé, on peut le dire, hein, au sens propre, la gynécologie obstétrique au Cambodge, au Tchad. Il y a donc très peu de monde, et donc depuis 3 ans, nous essayons de former les médecins généralistes au Tchad. On est une bande de retraités à y aller. On y passe 1 mois et on forme. Donc, on est 4 ou 5 à faire une noria pour faire de l'accompagnement, former les médecins généralistes. Et même chose, les sages-femmes, il y avait un gros problème. Il y a des écoles de sages-femmes où elles ne font pas d'accouchement. Elles sont là sur le banc. Et donc, c'est comme si vous voulez apprendre à jouer au piano en regardant Rubinstein sur une vidéo. Hein. Ce n'est pas comme ça que vous allez faire. Bon. Donc, il faut le faire et donc accompagner. Et donc, on a branché avec l'accord du ministère. Donc, à chaque fois, nous, on s'est imbriqué, appuyé sur notre ambassade, évidemment, puisqu'on est français, et les aides qu'on peut en obtenir, les autorités locales, parce que je crois que c'est important de faire avec les autorités locales et de les sensibiliser à la formation et d'avoir un rôle politique. Et puis, évidemment, des volontaires qui veulent donner de leur temps. Et donc là, on a branché un programme de formation de sages-femmes qu'on a fait un peu comme au Laos. D'ailleurs, il y a une première année, donc c'est simplifié. Il n'est pas question de passer le concours de PCM1, enfin du PACES. Donc après le bac, elles rentrent dans l'école d'infirmiers. Elles font une année d'infirmerie. Enfin, si je sois infirmier pour apprendre l'hygiène, les piqûres, etc., le sondage, etc. Et après, on a branché dessus deux années d'obstétrique avec des actes à faire, des 50 ou 60 accouchements, des sièges, des révisions utérines, des épisios à réparer, etc., de façon à apprendre ça. Et les généralistes, on les forme aussi à faire l'obstétrique, à faire les accouchements, enfin les manœuvres, les sièges, etc., et même à faire les césariennes, apprendre à faire une césarienne. C'est purement technique de leur apprendre à faire ça en disant tu coupes là, t'écartes les droits, tu fais attention à la vessie, mais c'est mieux que rien que de n'en pas avoir. Donc voilà ce que fait le collège avec un certain nombre de gens, et donc nous nous, nous situons comme ressources, hein, les anglo-saxons disent ça, ressources humaines d'abord, des enseignants. Moi j'ai la faiblesse de croire que les enseignants ça sert à quelque chose. Je sais que d'habitude on ricale. On dit, mais les profs, ils sont tous nuls. Moi, le premier, j'ai toujours trouvé que c'était nul. Mais, à force, je m'aperçois que ça peut servir quand même un peu pour enseigner, pour venir sur le terrain et le compagnonnage. Je veux dire que par là, moi, je ne crois pas bien qu'on puisse enseigner par l'Internet à distance. Il faut être là. Et ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement. Les consultations, tu mesures la hauteur utérine, tu mets les mains comme ça, où elle est la tête. On ne sait pas, dis donc, il est bien gros l'utérus, il y en a peut-être deux, ah bon, je n'avais pas pensé, voilà, c'est ça. Mais il faut du temps. Bon, on fournit des documents, des livres, bon, j'ai la faiblesse d'en avoir commis, alors j'en fais donner par Masson Elsevier, qui, je dois dire, les donne, alors quelquefois, ce n'est pas la dernière édition, mais ça ne change pas. Des DVD, puisque au collège, on a pas mal de documents, et donc on essaye de le fournir. On essaye aussi de faire passer l'idée de méthodes de travail, des RPC, vous savez que chez nous on a les RPC, on y tient beaucoup, de revues de morbi-mortalité, hein, parce que c'est important d'analyser les morts, les accidents, etc., et de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, et donc de faire de la formation sur place, évidemment avec l'idée que la majorité restreint chez eux, et ce qu'on fait venir c'est pour des courts séjours, avec l'idée de pas... C'est pas là qu'ils vont apprendre à faire la césarienne ou le forceps, c'est sur place qu'ils doivent l'apprendre, mais de voir surtout comment on travaille, comment on s'organise, comment on améliore l'hygiène, etc. Et puis une fois que les affaires roulent, de continuer pour faire de la formation continue ou d'améliorer les élites. Alors, est-ce que ça fait borcer la mortalité? Alors, oui, je vous montre ce document parce que ça, c'est au Cambodge. Il y a deux ans, ils m'avaient invité pour les journées de formation continue et on a eu le plaisir de voir que les Cambodgiens, avec la société cambodgienne, ils avaient fait une recommandation pour l'hémorragie du postpartum, pour l'hémorragie immédiate, qui est cause de mort, comme tout un jeune l'a dit. Donc moi, je leur disais depuis longtemps, regardez, on a des recos, inspirez-vous, parce que ce qu'on essaye de faire passer l'idée, c'est que ce n'est pas la reco du collège qui est à prendre comme ça. Il faut se l'approprier, l'adapter aux modalités locales, hein, la customiser, comme on dit aujourd'hui. Alors, il faut l'adapter. Hein, et ils ont fait. Là, vous l'avez la version française, mais il y avait la version Khmer qui m'ont montré pour traiter l'hémorragie de la délivrance au Cambodge. C'est bien. Et nos amis de la Société africaine de gynécologie obstétrique, avec l'UNFPA et l'OMS, ils ont fait un petit bouquin de poche pour les bonnes pratiques en gynécologie obstétrique qu'on essaye de diffuser aux sages-femmes, aux médecins, en Afrique, et qui... Bon, moi, j'avais un peu participé parce qu'on a pris des histogrammes dans mes bouquins, etc. Je crois que c'est une bonne chose d'avoir ce type d'affaires. Donc, c'est ça qu'on fait et qu'on essaye d'apporter. Alors, est-ce que ça fait baisser la mortalité? Je vous montre les courbes du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est à cause de nous que c'est comme ça. Je dis simplement que nous avons peut-être un peu contribué en aidant à la formation... À faire aussi passer un peu d'idées, parce que Moi, je me gendarmais, par exemple, au Cambodge, où à la clinique, on faisait accouchement, on faisait la césarienne à tout le monde pour 800, parce que ça coûtait 800 dollars et le taux de césarienne était très élevé. Au Vietnam, il l'est énormément, de dire, bah, attendez, là, on n'est pas là pour faire des césariennes pour gagner sa croûte. On est là pour aider les femmes, pour faire le mieux. Et ce n'est pas éthique de faire ça. Et je donnais l'exemple chez nous. J'ai dit, le prix de l'accouchement et le prix de la césarienne, c'est le même, pour que vous n'ayez pas d'excès. Donc, il faut aussi faire passer quelques idées. Enfin, moi, j'essaye de les vendre. J'y crois un peu et j'essaye de dire qu'on a quelques idées à vendre. Donc, ben, en Algérie, au Gabon, au Tchad, ça baisse moins, mais c'est des problèmes comme ça. Donc, pour finir, parce que je pense que j'ai débordé mon temps, mais on va me fustiger. Mais bon, c'est bavard, les professeurs, c'est grave. J'essaye de me soigner. Donc, en conclusion, je crois qu'on peut apporter des choses, parce que ben, on a des ressources humaines, et il y a des pays qui n'en ont pas. Et au Tchad, par exemple, il n'y en a pas. Et donc, je crois que ben, le temps qu'on y passe, ça apporte de la formation aux médecins, aux sages-femmes. On apporte des moyens, des bouquins, des films. On apporte quelques méthodes, des RPC, des revues de mortalité. Et puis, on essaye de former des formateurs locaux qui, espérons-le, feront tâche d'huile et, à leur tour, laisseront, je pense, une trace. Et je pense qu'on a... Moi, je crois à la tradition orale de parler, de discuter avec les gens que c'est important. Et je pense que, je le dis comme ça, sans modestie aucune, que les gens sont sensibles de me voir passer un mois au Tchad avec eux à 77 ans. Je vous remercie.